I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. C'est Esther au micro, accompagnée de Clémence.
Bonjour.
Et aujourd'hui, nous sommes reçus par une journaliste. Oui, une journaliste dans Activiste. Je sais que ça peut sembler contradictoire avec l'objectivité et la neutralité qu'on attend généralement de leur part. C'est justement un sujet qu'on va aborder. Passée par LCI, désormais à Libération au service Check News, elle a aussi coécrit un livre aux éditions Pygmalion, Cyberharcèlement, bien plus qu'un mal virtuel. Et elle est bien placée pour aborder le sujet, puisqu'elle en a elle-même fait les frais. Allez, j'arrête avec le suspense, d'autant plus que vous l'avez vu dans le titre de l'épisode. C'est Anaïs Condomine qui nous reçoit.
Bonjour.
Bonjour Anaïs. Direct dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'objet de ton livre, pour commencer ?
Oui, je peux. Alors, ce livre que j'ai coécrit avec Emmanuel Friedman... il est parti d'abord d'une expérience complètement personnelle, puisque comme tu l'as dit, j'ai été victime de cyberharcèlement début 2017, quand j'avais réalisé une enquête pour LCI à l'époque sur le forum 1825 de jeuxvideo.com.
Ah, t'as cherché les problèmes.
J'ai complètement cherché les problèmes, je me doutais pas à quel point... à ce moment-là. Et donc, évidemment, comme une preuve par l'absurde, après l'enquête qui dénonçait les raids antiféministes, notamment, menées par certains membres de ce forum, j'ai moi-même été harcelée. Donc, ça donne matière à réflexion. Mais après, le livre, il n'est évidemment pas du tout sur mon cas personnel. Je l'aborde en quelques lignes, en fait. Mais ce qui comptait vraiment, c'était de pouvoir donner une dimension... plus global et éminemment politique de ce sujet. C'est ce qui me tenait à cœur parce que ce qu'on dit dans ce livre, c'est que ce qui se passe sur Internet, c'est la vraie vie, qu'il n'y a absolument pas de différence marquante en tout cas entre les discriminations qui peuvent avoir lieu dans la société et les discriminations qu'on peut retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est politique d'en parler de cette façon-là, je pense.
C'était naturel pour toi de faire un livre sur un sujet profondément politique, justement ?
Le côté politique, oui. Le côté naturel de faire un livre, non. C'est-à-dire que je ne me sentais pas forcément légitime à proposer le sujet. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai proposé. C'est la maison d'édition et Emmanuel Friedman qui m'ont proposé de rejoindre leur projet, en fait. Parce que j'avais écrit sur le sujet et réfléchi un peu à tout ça. Mais moi-même, je ne me sentais absolument pas légitime à taper à la porte d'une maison d'édition. Aujourd'hui, ça a changé. Donc ça, c'est... quelque chose de trop trop bien que ce projet m'a apporté, c'est que je me sens légitime sur certains sujets à prendre la parole et à, si besoin, démarcher ce qu'il faut pour dire ce que je pense.
C'était le sujet ou vraiment la démarche d'aller frapper à une maison d'édition, ouais, l'action d'écrire un livre ?
C'était le livre.
D'accord.
Ça me paraissait énorme et pas du tout à ma portée. Et en fait, si. Quand la on preuve... travaille, on peut, oui.
Et plus précisément sur le sujet du cyberharcèlement, tu dis que ce qui se passe sur Internet, c'est la vraie vie. Effectivement, ça c'est un argument qu'on entend souvent, il n'y a qu'à fermer l'onglet. Est-ce que tu penses que les choses ont changé ? Comment tu crois que les choses ont changé depuis ta première enquête jusqu'à aujourd'hui ? Moi j'ai toujours la sensation que pour énormément de gens, Internet c'est une espèce de bulle, il suffit de ne pas s'y aventurer pour ne pas en faire les frais.
Ouais, alors déjà, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on en parle. C'est qu'aujourd'hui, le cyberharcèlement, c'est un mot que les gens connaissent. Moi, quand ça m'est arrivé en 2017, je me sentais complètement seule au monde. dans l'entreprise dans laquelle ça m'est arrivé et aussi dans mon cercle proche des personnes qui étaient bienveillantes envers moi mais qui comprenaient pas du tout ce qui était en train de m'arriver. Et effectivement, on m'a conseillé de fermer mon portable, voilà.
Mais concrètement, ce qui t'arrive à ce moment-là, c'était quoi? C'était des tweets? C'était des mails? C'est quoi le cyberharcèlement? Comment toi, l'as vécu?
Moi, comment ça s'est fait pour moi, c'était donc d'abord... oui, ça s'est concrétisé sous la forme de raids sur Twitter, mais de raids qui étaient coordonnés sur le forum, donc avec énormément de pages et de topics concernant ma personne, mon média, et toutes les informations personnelles qui pouvaient être trouvées sur moi ont été divulguées à cet endroit-là. Donc du coup, il y avait mon adresse, il y avait... ils ont retrouvé mon Skyblog, que moi-même, je ne savais même pas qu'il existait encore, ils sont un petit peu forts. Donc ça a été des flots en continu pendant 4 jours et 4 nuits de menaces de mort et de viol. Et puis, ils ont également retrouvé des photos de mon compagnon de l'époque. Ils en ont fait un mème. Ils le présentaient comme un violeur d'enfants, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Ils m'ont abonné à plein de sites porno avec mon adresse professionnelle. Voilà. Et j'en oublie sûrement. Ils n'ont pas été jusqu'à frapper à ma porte. Mais la menace était là puisque mon adresse était en pâture, donc j'avais trop peur en fait qu'ils viennent. Donc c'est ça en fait, c'est surtout une menace constante qui t'arrive quelque chose physiquement. Et de toute façon, physiquement, j'étais déjà atteinte parce que ça m'a vraiment empêchée de dormir, j'avais mal partout, j'étais très stressée, j'avais peur qu'ils retrouvent mes petites sœurs qui sont sur Twitter aussi. Voilà.
Comment t'as réagi? T'as porté plainte? T'as demandé à des amis de te ramener chez toi ou des choses comme ça? Qu'est-ce que t'as mis en place à ce moment-là?
Alors, j'ai absolument pas porté plainte parce que, comme ce que je disais tout à l'heure, à l'époque, le cyberharcèlement, on en parlait très peu. Je savais qu'il y avait des choses illégales dans l'eau, mais je me sentais pas de le porter toute seule. Surtout, j'avais absolument envie que ça s'arrête. Je n'avais qu'une seule envie, c'était qu'on me foute la paix avec ça et que ça se termine. Donc, pour moi, le fait de dire je vais porter plainte ou quoi, ça aurait remis une pièce dans la machine et ça me terrorisait. Ce serait aujourd'hui, je ne souhaite pas que ça m'arrive de nouveau, mais ce serait aujourd'hui, évidemment, je pense que je ferai une démarche de trouver un avocat ou une avocate et de porter plainte, d'aller en justice.
Maintenant, il y a jurisprudence d'ailleurs, puisque Nadia Dam a subi environ la même chose que toi, mais un
puissance
an et demi
1000,
après. Mais effectivement, jeuxvideo.com, des raids, etc. Et elle a porté plainte et elle a réussi à faire condamner, deux personnes.
Elle
parmi...
en a fait condamner. Alors,
il y en a au moins deux.
Alors, je crois même 4, voire 6.
C'est peu par rapport à la.
Mais
foule,
comparé aux dizaines de milliers de messages, on est d'accord que c'est extrêmement peu. Oui, donc aujourd'hui, il y a eu une forme de jurisprudence. Alors, je pense que c'est pas le mot exact aux yeux de la loi, mais en tout cas, une jurisprudence médiatique.
Il y a un précédent.
Et surtout, voilà, un précédent médiatique qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est coupable de harcèlement, qui participe à un raid, sait globalement et bien au courant qu'à la fois c'est mal et que deuxièmement, on peut le retrouver.
Tu parlais tout à l'heure du fait de t'y attendre ou pas. Pour toi, en faisant cette première enquête donc sur le forum 18-25, tu t'attendais à devenir leur cible ou tu pensais être quelque part protégée par ton institution ?
Non, j'y suis allée la fleur au fusil, complètement naïvement. je me disais que j'allais peut-être être un peu embêtée, mais vraiment, j'ai pas du tout anticipé ce qui allait se passer. J'en étais la première surprise, ce qui est très bizarre, puisque j'ai bossé dessus pendant plusieurs jours, sans me dire à un moment, ça va pouvoir m'arriver. Et j'aurais pu, en préventive, me mettre en privé, et surtout checker toutes les informations privées qu'il y avait sur moi sur Internet. J'ai jamais fait ça de la vie. Maintenant, c'est quelque chose que je fais, mais c'est trop tard, en fait. Je l'ai fait après. Donc, je m'y attendais pas, et en même temps, avec le recul, évidemment que c'est pas surprenant. Évidemment que c'est pas surprenant, puisque moi-même, par ailleurs, j'étais quelqu'un qui prenait des positions féministes affirmées, et que donc j'étais une cible potentiellement, en fait.
Est-ce qu'au départ, tu t'es dit « Ok, je vais arrêter de prendre la parole sur ces sujets-là, si c'est pour subir ce genre de choses, j'ai pas signé pour ça, quoi. »
Est-ce que ça t'a découragé ?
Oui, un petit peu. C'est une des principales conséquences pour moi du cyberharcèlement que j'ai subi, c'est que je me suis complètement auto-censurée pendant longtemps et je commence à peine, on est en 2020, c'était en 2017, je commence à peine à y revenir et à réaffirmer des positions et des choses qui me semblent importantes aussi, on pourra en reparler, mais au vu de l'actualité, des choses qui changent aujourd'hui et qui me portent aussi. Mais je suis toujours, encore aujourd'hui, dans une hyper-vigilance par rapport à ces sujets-là. Et quand je fais un tweet sur un sujet engagé ou que je donne mon avis, etc., j'ai l'impression de faire une dissertant. Enfin, j'y mets beaucoup de temps et je pèse chaque mot, ce qui est important à faire, puisque quand on s'exprime en public et qu'on a une petite responsabilité, c'est un travail qu'il faut faire, je pense que c'est bien, mais là, moi, c'est trop. Je suis en hyper-vigilance, quoi. Et j'évite des moments d'angoisse. Enfin, j'évite des moments d'angoisse qui me reviennent quand je vois tout de suite des mentions négatives et tout. Ça me replonge un peu dans du stress. Mais ça va beaucoup mieux. Hein. Je suis passée à autre chose quand même.
Bon, bah, bonne nouvelle. On est quand même très contente d'entendre ça. T'es loin d'être la seule à avoir subi ça. C'est ce que tu essayais de mettre en avant dans ton livre. T'as rencontré combien de femmes qui ont vécu ce même genre de choses?
Alors le nombre, je ne sais pas te dire. Je pense qu'on en a interrogé dans le livre. On a entre 10 et 15 témoins. Pas que des femmes d'ailleurs. Il y a aussi des hommes gays notamment. Qui sont également des cibles de cyberharcèlement. Puisque de toute façon, le cyberharcèlement, ça se porte vers, principalement vers les minorités, entre guillemets, ce qu'on appelle les minorités sociales. Voilà. Donc on a recueilli pas mal effectivement de témoignages qui sont sur une échelle assez graduelle de violence. Ça peut aller de simples, entre guillemets, insultes à des menaces extrêmement graves et surtout, en termes de conséquences, et je suis très contente de l'avoir dans le livre, on a recueilli la parole d'une femme qui a été extrêmement malmenée et qui a terminé à l'hôpital psychiatrique quand même pour se reposer, se remettre de tout ça. Et je pense que c'était important qu'elle nous accorde sa confiance et qu'elle nous parle. Et je suis très très fière d'avoir recueilli sa parole parce que ça montre que les conséquences sont évidemment réelles. Mais s'il fallait le prouver, voilà, elle en apporte la preuve, quoi.
Alors je reviens à la question que j'ai posée plus tôt sur qu'est-ce qui a changé, quel est ton regard là-dessus, parce que j'étais un peu déroutée. Tu disais qu'aujourd'hui on en parle, le mot existe, c'est vrai. Quelles sont les autres conséquences ou les autres évolutions que tu vois par rapport au thème du cyberharcèlement, sachant que, je le répète, mais autour de moi, les gens qui ne travaillent pas sur Internet, dès que je sors de ce cercle-là, pour eux le cyberharcèlement, le problème est vite réglé. Tu fermes l'onglet.
Je pense qu'il y a une évolution sur le plan juridique, donc on en a déjà un peu parlé. Il y a eu le procès des harceleurs de Nadia Adam, des harceleurs de Nikita Bellucci aussi, l'actrice X, qui a eu le courage de également porter plainte. Et ces deux filles-là, c'est reconnaissance éternelle, quoi, parce qu'elles ont été des pionnières, elles s'en sont pris plein la gueule. Et aujourd'hui, elles forment un précédent auquel les autres femmes peuvent s'accrocher. Donc vraiment, big up à ces deux meufs, je les aime trop. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sur le plan de la justice, ça a changé. Sur le plan des médias, ça commence à changer. Il y a une loi aussi qui, mine de rien, est passée donc à l'été 2018. Pour moi, ça a été un vrai tournant. Pourtant, je suis loin de saluer toutes les actions du gouvernement actuel. Néanmoins, dans le cadre de la loi Schiappa, qui est passée à l'été 2018, contre les violences sexistes et sexuelles, il y a une disposition qui porte sur les raids numériques et qui, à mon sens, est parfaitement adaptée à la situation de ce que peuvent vivre les femmes activistes, journalistes, politiques, qui sont la cible de raids numériques. Donc, l'idée, c'est de dire, toi, petite personne qui pose une brique dans un événement de cyberharcèlement, qui croit que tu vas t'en tirer parce qu'en fait, tu n'as mis qu'un seul tweet, eh bien non. Maintenant, si tu as conscience que tu prends part à un ensemble qui s'appelle un raid et qui vise une personne de manière malveillante, tu peux être condamné pour cyberharcèlement. Et concrètement, ça veut dire que le harcèlement, qui avant était qualifié par des actions répétées, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et voilà, ça, je trouve ça parfaitement adapté, ça a changé. Après, encore une fois, pour moi, ce qui est le plus important, c'est pas nécessairement qu'on puisse poursuivre quelqu'un pour cyberharcèlement. Parce que même avant qu'il y ait cette disposition-là, il y avait des plaintes qui étaient faites pour menaces de mort, etc., par voie numérique, hein. Ça, on peut le faire depuis 2014. C'était hier, donc voilà. Mais au moins, on peut le faire. Donc pour moi, l'idée, c'est pas qu'on puisse condamner quelqu'un pour cyberharcèlement. Si on condamne quelqu'un pour menace de mort, menace de viol, menace de violence, etc., la condamnation, elle est là. Le but, c'est que la condamnation soit là. Et surtout, et surtout, ouais, en fait, qu'il y ait un écho médiatique. Voilà. Parce qu'après, derrière, il suffit de taper le mot dans Google pour dire « Ah, en fait, ouais, c'est illégal, en vrai. » Et en vrai, on peut nous retrouver. Purée, il n'y a pas d'anonymat sur Internet, c'est incroyable. Bah voilà.
Ouais, les conséquences peuvent aussi être réelles pour les personnes qui commettent ces actes. Donc.
Dans une très petite mesure quand même, ouais. Encore aujourd'hui. Je vais pas, j'en suis pas du tout à crier victoire. On est sur des quantités infimes d'agresseurs et de harceleurs qui sont condamnés. Tout à fait à l'image de la façon dont on punit les violences contre les femmes, puisque là on parle de ce sujet-là en général dans la société.
Juste, j'aimerais te faire préciser un truc. Là, on parle beaucoup des raids, et en particulier des raids 18-25. Est-ce que le cyberharcèlement, ça peut être autre chose que des raids coordonnés à partir d'un forum ?
Bien sûr. D'ailleurs, je pense que toutes les personnes sur le forum 18-25 ne sont pas des harceleurs, je le précise aussi.
On le précise très très fort, merci beaucoup.
Ne nous embêtez pas.
Alors, je plaisante qu'à moitié, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur Nadia Dame. C'est vrai qu'au moment où il y a eu son affaire, j'étais rédactrice en chef de Mademoiselle à ce moment-là, et mon soutien était assez tiède, parce que Mademoiselle subissait déjà énormément de raids de jeuxvideo.com. On était étiquetés comme les féministes, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y avait... et en fait, dans la société, le féminisme a progressé, et donc à chaque fois que vous faisiez, vous les journalistes en général, des sujets sur le féminisme qui ne plaisaient pas à certaines personnes du 18-25, ça se retournait on est en raid contre Mademoiselle, même si on n'avait rien à voir avec la choucroute. Donc à ce moment-là, si tu veux, moi je serrais les fesses, parce que vraiment, c'était pas le moment.
Je comprends.
Mais voilà, je me joins vraiment à ton soutien, que ce soit à Nikita Bellucci ou à Nadia Dame. Je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui de pouvoir leur dire « Yes, merci beaucoup les meufs, bravo, soutien fort total, parce que je n'engage pas tout un magazine avec moi, toute une équipe !» Et que voilà, c'était extrêmement pénible à subir ces trucs-là. Et en fait, nous, c'était depuis 2014, parce que moi, j'avais fait une enquête sur le 18-25 en 2014.
Pionnière.
Mais j'avais tout bloqué, tous mes réseaux, etc. avant, parce que j'avais prévu le coup. Et il y a une journaliste de l'Obs qui a repris mon papier, mais en mettant, en généralisant en fait à tout le 18-25, ce qui fait que c'est elle qui a pris le raid. Et donc, comme c'est elle qui a tout pris, moi, en 48 heures, j'étais sortie de la tempête sans une égratignure. Pardon pour elle.
Non, mais ouais, c'est...
Mais bref, j'ai encore une fois détourné la conversation, pardon, et j'ai oublié ta question.
C'était juste pour préciser, parce qu'on a parlé oui. d'une forme de cyberharcèlement, mais je pense qu'il y en a d'autres.
Exactement.
Je voudrais pas laisser croire qu'en fait...
ça n'est pas que le 18-25.
Or, cette forme de cyberharcèlement, il n'en existe pas d'autres.
Bien sûr, et d'ailleurs, il y en a d'autres qui ont été complètement remises sous les feux de l'actualité récemment. On pense à l'affaire dite de la Ligue du LOL, etc. Donc, qui est complexe, mais néanmoins, qui met en lumière des mécanismes de cyberharcèlement qui ne se sont pas nécessairement faits sous anonymat, etc. Donc, évidemment que chacun et chacune peut être à l'origine de cyberharcèlement, que chacun et chacune doit se poser la question de sa responsabilité sur les réseaux sociaux, et que c'est à tout le monde d'engager une réflexion, selon moi, sur la bienveillance et sur l'empathie. Les deux mots qui comptent le plus aujourd'hui, voilà, de comment on se comporte les uns envers les autres et sur Internet et ailleurs. Voilà.
Est-ce que toi, tu perçois des voies d'application pour ce genre de choses ?
Ben oui, alors moi je pense que ça peut pas... Enfin, c'est toujours la même réponse en fait. Je trouve que la réponse au règlement des violences, bah, c'est l'éducation. Donc voilà, c'est...
Mais on le dira jamais assez.
Ouais,
je pense que voilà, par là.
Exactement. Donc en fait, rappelons-le. Et sur le domaine numérique notamment, on sait que les gamins aujourd'hui qui sont à l'école en ce moment grandissent avec les smartphones et... Ouais, les smartphones en fait. Beaucoup plus que nous, beaucoup plus que la génération d'avant. Et ils connaissent déjà tout ce qu'il y a à savoir. Tout ce qu'il y a à connaître sur comment on se sert d'un smartphone, sur tous les réseaux sociaux, ils sont trop forts, ils sont super habiles. Simplement, je pense que là, dans la bataille, on a un peu oublié de leur faire cocher les cases responsabilité, bienveillance et empathie, en fait. Et de leur faire comprendre qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut sur Internet, évidemment, et que même au-delà de ça, ces valeurs-là, elles doivent être valorisées. Et là, on a complètement oublié cette éducation-là, je pense. Cette petite partie... De tout ce qu'ils savent déjà faire, c'est incroyable, ils ont des compétences incroyables, mais on a oublié de leur dire que ce bagage-là, il va avec. Et pourquoi on a oublié ? Parce que, en fait, c'est pas du tout au goût du jour. Quand on regarde même... Enfin, moi, je suis ahurie, quoi, par les propos des politiques et tout, c'est vraiment... on lance des attaques ad hominem et qui se répercutent ensuite en menaces, en insultes, dans des violences inouïes. Donc en fait, même si les gens qui sont censés montrer l'exemple ne le font pas, comment on veut qu'on l'apprenne aux gamins dans les écoles? Et ça, c'est un travail. Pour moi, ça relève complètement des pouvoirs publics, de toute façon. De pouvoir rajouter ces valeurs cardinales-là dans l'apprentissage du numérique. Et à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression que ce soit le cas.
À plus petite échelle, au sein de ta profession, du journalisme, est-ce que les choses ont évolué et comment? Parce que, pour reprendre mon exemple, alors oui, c'est fermer l'onglet, ça permet de se détacher d'une vague de cyberharcèlement pendant quelques jours, mais quand on travaille avec Twitter, quand son travail consiste à être connecté pour suivre l'information, tu ne peux littéralement pas fermer l'onglet. Donc, entre 2017 et aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé, tu penses, dans le journalisme? Comment, pourquoi?
Ouais, j'ai vu des changements. En tout cas, c'est en train de se jouer actuellement. Il y a eu plusieurs choses, moi, qui m'ont marquée. Donc, je faisais partie du conseil d'administration de Prenons la Une jusqu'à il y a quelques temps encore.
Prenons la Une, qui est une association dont la mission...
De femmes journalistes, oui.
De femmes journalistes.
Dont la mission est de valoriser la place des femmes et le traitement des sujets liés aux violences faites aux femmes et voilà, dans les médias. Et donc, l'année dernière, on a organisé ensemble les états généraux des femmes journalistes. Il y avait un atelier qui portait sur le cyberharcèlement qui a été extrêmement fourni et il y a plein d'idées qui en sont ressorties. Ça nous a permis, moi c'était un grand moment pour moi parce qu'il y avait plein de femmes de différentes rédactions et ça nous a vraiment permis de mettre en commun nos idées et nos bonnes pratiques. Et notamment, il y avait une journaliste du Monde, du service Pixel, qui, elle aussi, a eu à subir du cyberharcèlement et qui nous racontait qu'au Monde, ils avaient mis en place un système de volontaires au sein de la rédac, de volontaires en cas de raid ou de... Ouais, là, c'est en l'occurrence de raid, pour protéger la personne qui est ciblée, c'est-à-dire prendre son compte, le nettoyer, le mettre en privé, faire des captures d'écran, bloquer, signaler, etc. pour pas que la victime ait à prendre connaissance des insultes avant de les bloquer elle-même, puisqu'évidemment, pour appuyer sur le truc reporter ou bloquer, bah, il faut avoir lu les insultes, en fait, il faut avoir compris que c'était problématique. J'ai trouvé ça hyper inspirant.
En gros, c'est déléguer la gestion d'un compte Twitter personnel à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, pour éviter toi-même d'avoir à lire les messages et
exactement.
Les
insultes. Voilà. Et ça se fait sur la base de volontaires prêts à le faire. Ils ont, à mon avis, au Monde, alors elle en parlerait mieux que moi, mais ils ont essayé de faire diffuser des bonnes pratiques. J'ai travaillé récemment avec le groupe France TV parce qu'ils sont en train de mettre en place une charte aussi de comment... comment on réagit quand un ou une journaliste est harcelée, et ça va jusqu'en haut, c'est-à-dire jusqu'à la direction, jusqu'à l'aide juridique de la boîte, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est, moi, je trouve ça grandiose. Et pour moi, ça, c'est ces moments-là et ces prises de conscience-là, je me suis dit, ah ouais, on a quand même réussi, là, cette année, à faire bouger les choses. Il y a vraiment une prise de conscience. Moi, en 2017, quand ça m'est arrivé, j'ai reporté le problème à ma hiérarchie et... ça n'a pas donné grand-chose, quoi. Voilà. Donc, je vois qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas tout rose, mais il y a quand même dans les rédactions des gens qui ne connaissaient pas du tout le problème avant, qui disent « Ok, on va mettre nos moyens juridiques à ta disposition. » Des moyens financiers, donc, parce que ça coûte cher hein, de faire des captures d'écran, de faire appel à des huissiers, d'aller en justice, d'avoir un avocat ou une avocate, ça coûte extrêmement cher. On n'en a pas tous et toutes les moyens. Et donc, ça, pour moi, c'est une vraie avancée. Et ça, voilà. Pour moi, c'est des choses dans le journalisme qui sont en train de changer en ce moment.
Pour revenir sur l'aspect politique de ce que représente le cyberharcèlement, je ne sais pas si tu pourrais détailler un peu ce que tu entendais par là aussi au départ de cette conversation.
Ouais, bien sûr. Bah, c'était vraiment le fait de dire que comme le cyberharcèlement, c'est le reflet de ce qui se passe... ailleurs dans la société. Parler de cyberharcèlement, ça revient à parler de violence contre les minorités, de violence contre les femmes, et donc de violence contre les personnes racisées, les personnes LGBT, etc. Et pour moi, c'est politique au sens large, parce que ça rejoint complètement mes combats que je mène par ailleurs, qui est une lutte contre toutes et je dis bien toutes les discriminations dans la société, puisque c'est en passant par une lutte dans la société et au niveau des pouvoirs publics et de politique au sens large qu'on va améliorer les pratiques sur les réseaux sociaux. Ça, c'est évident. Je ne vois pas comment on peut nettoyer, entre guillemets, les réseaux sociaux de ces pratiques-là sans éradiquer le sexisme, le racisme ou les LGBT-phobies, en fait. Ça me paraît impossible. Donc, pour moi, le sujet est éminemment politique. La réponse à apporter est éminemment politique. Et c'est pour ça que ça me passionne.
Attends, tu fais partie de ces gens qui disent que le problème, c'est pas les réseaux sociaux, les problèmes sont dans la société. Et les réseaux sociaux ne font qu'impliquer les problèmes.
C'est trop bien, les réseaux sociaux. Mais évidemment. Et ça, ce discours qui consiste à dire Facebook et Instagram et nanana, c'est les grands méchants loups d'aujourd'hui. Non, non, non. Bon, bah, c'est des organes du capitalisme. C'est, voilà. Mais c'est pas eux. C'est pas eux qui insultent et qui menacent, en fait. C'est les gens qui s'en servent. Donc évidemment que... Et d'ailleurs, d'un point de vue... de ce qui nous intéresse, enfin du point de vue du féminisme par exemple, les réseaux sociaux, c'est fabuleux, c'est ce qui fait des révolutions. J'adore. Et moi, mon engagement en tout cas ne serait rien sans les réseaux sociaux aujourd'hui. J'y ai découvert des gens incroyables, ça me porte tous les jours. Et par ailleurs, c'est mon outil de travail. Et c'est les gens qui harcèlent dessus le problème, c'est pas les réseaux sociaux. Oui.
Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que même s'ils ne sont pas à l'origine du problème, ils ne font pas assez pour résoudre le problème?
Ça, c'est une critique tout à fait fondée, qu'on aborde également dans le livre, parce que, évidemment, à partir du moment où il y a un problème, il y a un constat qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc, il faut pouvoir y remédier. Donc, les géants du web ont commencé à mettre en place des pratiques, et ils y sont un petit peu obligés. Pourquoi ? Parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des grandes entreprises qui ont envie de faire des sous. Et donc, s'il y a des personnes qui font des dépressions ou des suicides par leur biais, en fait, eh ben, c'est pas bon pour l'image. Donc, ils ont plutôt intérêt à gérer le problème. Donc, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Il y a eu des discussions, notamment en France, avec le gouvernement dans le cadre de la loi Avia, dans d'autres pays aussi.
Est-ce que tu peux rappeler ce qu'était la loi Avia ?
La loi Avia, c'est une loi qui est portée... C'est une loi qui porte contre la haine sur le numérique, qui avait plusieurs propositions, mais cette loi n'est pas encore passée. Hein. Je pense qu'elle passera en dernière lecture en avril, donc on est en plein dedans en fait. Et il y a eu des allers-retours avec le Sénat notamment. À la base, la loi Avia proposait de punir avec une très très forte amende les réseaux sociaux, les grandes plateformes, les grands géants du web. Qui ne réagissent pas suffisamment vite quand il y a des contenus manifestement illicites. Seulement, c'est une mise en place qui est très compliquée et qui, pour moi, se trompe un peu de cible, parce qu'encore une fois, la loi leur imposait, par exemple, proposait de leur imposer un délai de 24 heures pour modérer les contenus manifestement illicites. 24 heures, ça me paraît complètement intenable. D'ailleurs, cette disposition, elle a disparu au Sénat, et je pense que c'est une bonne chose. Parce que ces plateformes-là n'ont pas assez de modérateurs et de modératrices pour s'en occuper. Selon moi, ça allait créer des conditions de travail déplorables pour ces personnes qui sont déjà confrontées à tout ce qu'il y a de pire sur Internet toute la journée et qui sont payées une misère, en fait. Voilà. Et que le problème, c'est plutôt d'éduquer les gens à se comporter de manière civilisée et bienveillante les uns envers les autres et de punir, en fait, quand quelqu'un fait des menaces de mort et des menaces de viol de manière systématique. Plutôt que de mettre des énormes amendes à des plateformes qui peuvent limiter les dégâts, mais qui ne sont pas à l'origine des problèmes.
Et surtout, est-ce que j'ai envie de déléguer à Facebook le pouvoir de dire ce qui est ce qui doit être publié ou pas? Qu'un juge le dise, ouais, sans problème, parce que c'est la loi la référence. Facebook se base sur quoi pour faire la loi?
Il peut se baser sur les lois de chaque pays. Et puis sur ses propres conditions d'utilisation et voilà, mais effectivement oui, après c'est tout un débat qui porte sur la liberté d'expression, sur la censure, etc. Pour moi le problème est pas le problème est pas vraiment là. Pour moi c'est se cacher derrière son petit doigt de dire on va punir les plateformes parce que c'est de leur faute. Non, en fait c'est au pouvoir public et au gouvernement successif de dire on va porter une lutte contre toutes les discriminations et c'est ça qui réglera in fine le problème. Ça va prendre du temps, hein. Je dis pas que ça se règle en deux jours et que c'est facile, hein. Mais bon.
Alors justement, pour en arriver à tes combats, moi j'aime bien remonter aux sources des combats. Est-ce que tu te rappelles de tes premières indignations, les premiers trucs qui t'ont révolté?
Alors, j'ai un peu réfléchi à cette question. J'ai fait mes devoirs, parce que je suis une fille très sage et très studieuse. Et en fait, j'ai eu un petit moment de flip parce que je me suis dit non, je ne me souviens absolument pas de mes premières indignations.
Ouais, ce serait pas grave.
Mais,
hein, si
non,
le
mais
cas.
Il y a une vraie raison à cela. Moi, donc, si tu veux revenir aux origines, j'ai pas grandi dans une famille très politisée. Voilà, on n'avait pas forcément de, on n'avait pas d'ailleurs, on n'était pas abonné à des journaux, à des trucs. On n'était pas dans un truc de conscience politique prononcée du tout. Moi, la politique au sens large, j'ai commencé à m'y intéresser sur le tard, et donc au féminisme aussi, et ma conscience politique est venue par mon féminisme. Et ça s'est produit en fait quand j'avais, ça pour le coup je m'en souviens très bien, quand j'avais 24 ans, donc c'est sur le tard, voilà. Et aujourd'hui c'est pour ça que j'ai tellement d'espoir à voir des gamines et des jeunes femmes et jeunes filles dès le lycée, parfois même dès le collège, qui sont déjà hyper engagées. Ça me donne un espoir de dingue, parce que moi, pour le coup, j'ai eu toutes ces prises de conscience très tard, par des choses très basiques. C'est quand je commençais dans le journalisme, et qu'à l'époque, il y avait une petite actu autour des fémènes. Et donc, en fait, je suis arrivée au féminisme par les fémènes.
Yes.
Alors, je précise, enfin oui, je le précise parce que depuis, évidemment, mon féminisme a énormément évolué et il y a des choses. J'ai toujours beaucoup de tendresse pour leur mouvement et pour elles, et parce qu'elles sont trop fortes. Mais il y a aussi des positions sur lesquelles je suis plus d'accord, mais ça, c'est le jeu. Mais donc, le côté très visuel, leur corps, leur point levé, tout ça, ça m'a énormément galvanisée et je me disais, mais en fait, si j'étais pas journaliste, j'aimerais trop les rejoindre et y aller, quoi. En parallèle de ça, je suis affreusement mainstream hein, comme meuf, je vous le dis. Je regardais Girls. Voilà, Girls et Girls, ça m'a bouleversée, cette série avec Lena Dunham. Pareil, aujourd'hui, je suis plus forcément d'accord avec toutes ces prises de position et tout ça, mais peu importe, au moment où c'est passé, cette série, ça m'a bouleversée sur le rapport au désir, sur le rapport au corps. Et pour répondre à ta question, Esther, mes indignations, elles sont venues a posteriori. C'est-à-dire qu'au prisme de ces prises de conscience-là, j'ai compris que j'avais vécu des choses, personnellement, intimement, qui n'étaient pas normales. Voilà. Et donc, mon féminisme s'est nourri à la fois de pop culture, et d'éléments conjoncturels, en fait, et ça m'a permis d'avoir un regard sur mon intime, qui est politique, en fait. Voilà. Et par exemple, je me souviens très bien, pour revenir à Girls, que quand je regardais cette série et que je voyais les scènes de sexe pendant lesquelles l'héroïne n'était pas dans une extase incroyable, qu'elle se demandait parfois ce qu'elle faisait là, que parfois elle avait mal, que parfois elle voyait bien que son désir n'était pas respecté, et ben bizarrement, ça m'a énormément parlé. Et je me suis vue, en fait, en elle, et je me suis dit, ah ouais, donc j'ai pas su mettre les mots tout de suite sur ce qui se passait, mais j'ai compris que quelque chose se passait en moi, et que je me disais, en fait, là, il y a matière. Et là, tu viens d'ouvrir un truc. Et va falloir sacrément réfléchir, et c'est ce qui s'est passé à partir de là. Bon, alors là, j'ai plongé, mais la tête la première. J'ai enlevé toutes les œillères d'un coup. Enfin, bien sûr, c'est progressif, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'était plus de question d'un retour en arrière, évidemment. Et voilà. Et après, j'ai lu, je me suis cultivée, sur le sujet, je parle, je me suis documentée, parce que le féminisme, c'est ça aussi, je pense que. Ça passe aussi par tout ce qui a été fait avant, par les combats qui ont été portés avant, par tout ce qui a été écrit avant. Et voilà, je suis tombée la tête la première après, un peu tard, mais à fond. Et donc, mes indignations, ouais, je les ai vues après.
Une fois que tu as pris conscience de tout ça, tu étais déjà journaliste. Comment tu concilies les deux?
Oui.
Journaliste, alors, est quand même la figure de la neutralité, de l'objectivité dans la société. C'est un peu l'antithèse du militantisme, de l'activisme. Et tu es en train de nous dire que tu as eu ta conscience féministe après avoir commencé à bosser dans le journalisme. Vraiment, raconte comment tu as concilié les deux.
C'est mon sujet préféré de la vie. J'adore ce sujet. Alors, j'y ai énormément réfléchi. Moi, mes premières armes dans le journalisme, je les ai faites à La Voix du Nord, puisque je suis ch'ti, et que j'ai commencé mes premières piges et mes premières. J'étais correspondante locale à l'époque. Et j'avais ce rédacteur en chef que j'aimais beaucoup, qui était un très bon journaliste, avec qui on avait beaucoup discuté de ça. À l'époque, je n'étais pas du tout dans ces combats-là et je lui avais posé la question, on parlait de ces choses-là, de neutralité, d'objectivité. Et je lui avais dit, mais parce que, avec toute ma candeur et ma naïveté, mais dis donc, mais un journaliste engagé, c'est pas un journaliste. Et il m'avait répondu, c'est un journaliste désengagé qui pose problème. Et je l'avais regardé, j'avais pas du tout compris, mais j'avais noté la phrase et je m'étais dit, girl, franchement, le jour où tu pourras comprendre cette phrase, t'auras avancé. Et ça s'est produit. Et évidemment, aujourd'hui que je pense la même chose et que si je devais le dire à des... Enfin, j'ai plus besoin de le dire maintenant aux nouvelles générations de journalistes qui le savent très très bien. Évidemment que pour moi, je suis journaliste engagée, je l'assume complètement et c'est pas tous les jours facile à concilier. Ça l'est beaucoup plus aujourd'hui parce que j'ai la chance d'être dans un journal qui porte ces sujets-là, ces questions-là, qui est ouvert sur ces questions. Et j'ai moins l'impression de devoir me battre. Voilà, et je suis trop fière de bosser pour Libé, je le dis. Mais ça a été compliqué dans mes précédentes expériences où j'étais dans un ring de boxe un peu, quand même.
C'était aussi notre époque, c'est-à-dire que ça fait combien de temps que tu as rejoint Libération ?
Mais ça fait 5 mois, donc...
On est post-MeToo, on est MeToo deuxième année quand même, c'est pas le même contexte. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, je ne sais plus où tu étais il y a 4 ans, mais je ne suis même pas sûre. Je pense que Libération, de toute façon, est très progressiste, parce que c'est un journal de gauche qui porte des valeurs de gauche. Donc voilà. Néanmoins, il y a 4 ans, je ne suis pas sûre que tu n'aurais pas dû aussi être sur un ring, parfois sur certains sujets, même chez Libération. Ça ne m'étonne pas que tu l'aies été ailleurs. C'est aussi la société qui a évolué.
Ouais, c'est tout à fait possible. Mais du coup, comme je n'y étais pas, je ne peux pas le dire. Moi, par contre, je peux parler de mes expériences précédentes où j'étais clairement la féministe de service. avec une étiquette sur le front, parfois un peu lourde à porter. Et donc, ça m'a aussi appris la combativité et le fait de... d'y aller, de faire face à l'adversité quoi, sur ces sujets. Ça m'a appris énormément de choses, en fait. Je ne sais même pas par où commencer, parce que, en fait, au web, là où j'étais, donc dans cette rédaction de chaîne d'infos en continu, j'avais des chefs au-dessus de moi qui étaient ouverts, sympas, et qui me laissaient faire quand même ce que j'avais envie de faire sur ces sujets. Ça n'empêche qu'il y a 4-5 ans, j'arrivais quand même toujours en conf de rédac le matin avec mes petits CG féministes, qu'il fallait que je me batte un petit peu, mais c'était sympa, ça allait, ça passait. Ensuite, il y a eu MeToo, où là, ces sujets-là, ils sont devenus mainstream, ils sont devenus même bankable, quoi. C'est-à-dire que ça rapportait du clic et de l'argent, incroyable. J'avais un peu l'impression d'avoir gagné un truc quand même. Donc finalement, il y avait toute cette dynamique qui était incroyablement forte et puissante et intimement et politiquement, voilà. Et paradoxalement, ça se passait pas très bien, maintenant je peux le dire, avec la direction de cette chaîne d'infos en continu, parce qu'il y avait clairement un conflit de valeurs, voilà, entre moi, ce que je portais, et les valeurs que cette chaîne ou la direction porte. Et donc là, ça a été dans l'adversité la plus totale pendant quelques années quand même. Et là, il a vraiment fallu apprendre, et c'est important de l'apprendre quand même, les moments où il faut que tu y ailles, où il faut que tu portes ton truc jusqu'au bout, et les moments où il faut laisser glisser et où il faut se préserver. Voilà. Et ça, c'est important, en fait, dans l'engagement et dans le combat qu'on mène. On ne peut pas être sur tous les fronts en même temps, parce que sinon, on perd, enfin, on meurt, quoi, en fait. Et moi, j'avais aussi, en parallèle, envie de vivre ma vie, de ne pas angoisser tous les soirs et tous les matins. Et donc... ça s'est traduit concrètement par le fait que, à un moment, j'ai arrêté de parler de ces sujets-là, que j'ai travaillé sur autre chose. Et d'ailleurs, c'est très bien aussi de travailler sur autre chose. Et en fait, je n'écris pas du tout que sur le féminisme. Hein. C'était simplement moi qui, en conf de rédac, amenais les sujets, en revanche, voilà, là-dessus. Et puis qui reprenait mes collègues, qui... Voilà, donc c'était un peu un combat au quotidien, quoi.
Tu parlais de choisir les moments où tu vas te battre et ceux où tu laisses glisser. Tu fais comment le distinguo ?
Alors, c'est en fonction de la jauge d'énergie, comme un petit, un Tamagotchi, là, quand il reste les petites briques d'énergie, là.
Attention, la rêve des années...
Ouais,
la rêve des années 90. Alors, pour les gens qui sont nés dans les années 2000,
la vieille,
c'est comme sur la batterie du téléphone. Quand t'es à moins de 30%, tu lâches l'affaire, ça, tu tiendras pas.
C'est tout à fait ça. Et quand t'as oublié ton câble à la maison...
C'est pas la peine.
Tu restes couché.
Il faut apprendre à perdre, parfois.
Ouais, apprendre à perdre et apprendre à la fermer, même si c'est compliqué, mais en vrai c'est un bon exercice aussi, parce que ça permet de faire mûrir aussi ses arguments de faire mûrir sa colère. La colère, le truc tellement important. J'aime trop ma colère aujourd'hui. J'ai arrêté de vouloir la faire taire. Et c'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie, ma colère. Mais ça s'apprivoise et ça se canalise et ça se... On en fait quelque chose, quoi. Je sais pas comment on peut dire. Je pense qu'on n'est pas obligé de la laisser brute et que la colère, c'est une matière première pour faire plein de choses et que elle est complètement fucking légitime aujourd'hui, notre colère. Donc,
on se lève et on se casse, on a dit.
Voilà. Je l'ai accrochée au mur.
Yes.
La tribune de dépente. Désormais, on se lève et on se barre.
Publié donc à la suite des Césars, je ne sais pas. Je pense qu'elle va rester dans l'histoire, donc les gens sauront de quoi on parle, mais je préfère préciser pour les potentiels auditeurs et auditrices du futur qui n'auraient pas la ref.
C'est vrai que je dévie complètement de notre conversation, mais enfin, moi, ce qui s'est passé, parce que là, on enregistre une semaine pile poil après la soirée des Césars, et je pense que ça a été une nouvelle brique dans mon engagement. Donc, incroyable. Je l'ai absolument très mal vécu. Je l'ai très mal vécu. Franchement, ça m'a profondément bouleversée et je m'y attendais pas du tout. Parce que, en plus, les Césars, j'avais pas particulièrement prévu de les suivre et tout. Je me suis retrouvée dans une soirée entre copines où on a regardé ça comme un match de foot féministe. Et en fait, on était atterrés. Et on a décidé d'aller au Phuket ensuite pour se joindre à d'autres colères aussi. Voilà, c'est ça. Et ça m'a fait un bien fou. À la fois de gueuler un petit peu et aussi de voir d'autres militantes que je ne connaissais pas et avec un j'ai fait l'expérience là de vraiment de la sororité, quoi, parce que on était là, on se serrait les coudes sans se connaître et ça nous a connecté, c'était trop beau. Et en même temps, voilà, moi j'ai pris vraiment une claque énorme ce soir-là et j'en discutais justement avec une collègue et copine qui disait c'est très difficile de pas le prendre personnellement, et c'est vrai. Je trouve que évidemment que cet immense doigt d'honneur, cette immense claque de distinguer Polanski, c'était de dire, bah, franchement, vous nous faites chier déjà, les féministes, et votre douleur, on s'en fout, mais complètement, on ne veut pas l'entendre. Et évidemment que ça renvoie à quelque chose d'intime pour toutes celles qui ont vécu des choses pas normales.
Voilà. Quelle formulation pudique.
Ouais, voilà.
Pas normal. Vous nous faites chier les féministes. En fait, moi, j'ai pas regardé les Césars parce que je savais que c'est ce qui allait se passer. Parce que j'ai quelqu'un du milieu qui m'avait raconté une anecdote quelques semaines avant. Elle avait entendu comme ça une projection dans une salle des mecs du milieu qui discutaient derrière elle et qui disaient elles font chier ces féministes. De toute façon, elles vont bien voir ou un truc de style. Et ça m'a suffi parce que je me suis dit bien sûr que c'est ça le sens du vent. C'est normal, c'est le backlash. On est là, on est en train de faire progresser la société de façon extrêmement pacifiste. Faut quand même le rappeler. Mais aujourd'hui, les féministes, elles ont tué personne. Enfin, il y a pas de violence physique dans le combat féministe. C'est les militantes féministes qui la subissent, la violence physique. Et donc évidemment qu'au bout d'un moment, le vieux monde ne va pas se laisser faire, donc il va réagir. Après, j'avais quand même l'espoir que je me trompe. J'ai pas regardé les Césars, je me suis réveillée, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai voyé Polanski en tête. J'étais là, bon.
Et, oui, voilà. Et moi, encore une fois, j'y suis allée de manière tout à fait naïve. J'étais avec des copines, j'étais la seule petite hétéro de la soirée. Donc on espérait toutes voir gagner les reines du Gounistan, n'est-ce pas? Et là, voilà, la grosse claque. Ouais.
Comment, alors, moi je veux quand même revenir à la distinction, s'il y en a une, journaliste et engagé, parce que t'as bien répondu sur tout le côté engagement, et je vois comment tout ton investissement personnel nourrit ton dynamisme et te donne de l'énergie par rapport à ton travail. Tu réponds moins sur la partie, le travail du journaliste, c'est un témoin, c'est un relais de l'information, de ce qui se passe. En fait, comment tu peux rendre compte de l'état du monde si tu l'abordes par le filtre de ton engagement?
Oui, alors c'est une excellente question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi aussi, et ça fait longtemps d'ailleurs. Moi, le mot-clé, c'est le mot équilibre. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, quand je traite une question de société, je vais faire attention à donner la parole au camp A et au camp B. Voilà, parce que c'est mon travail, parce que je n'ai pas à dire aux lecteurs et aux lectrices ce qu'ils doivent penser. Ils sont suffisamment intelligents pour comprendre ce qu'ils doivent tirer du fait de société qu'on expose. En revanche, là où j'ai la main, c'est sur l'angle. Voilà. Et l'angle, c'est un choix, c'est un éclairage, c'est une façon, c'est pas à vous, je l'apprends du coup.
Mais tu l'apprends sans doute à beaucoup de gens qui nous écoutent. Mmh. Donc tu peux creuser sur ce que c'est
donc,
qu'un
angle. L'angle en journalisme, c'est une façon d'éclairer un sujet. Un sujet, on a une énorme masse devant nous et on se dit par quelle question je vais aborder ce sujet énorme. Voilà, César au Polanski au César, par quelle question, par quelle façon d'éclairer cet objet énorme, je me lance dans ce sujet, quoi. Et là, on a la main, parce qu'évidemment, un angle, c'est subjectif. C'est une question, c'est une interrogation. Et évidemment que l'humain derrière le journaliste a son avis, ou en tout cas, a sa question, sa propre question à apporter. L'angle, pour moi, c'est par là que passe mon engagement. C'est-à-dire que les questions que je vais me poser, je vais les faire en responsabilité et je vais les faire non pas parce que j'ai envie d'aboutir à la fin de l'article à une conclusion qui vous dit à tous et à toutes comment penser, mais parce que je pense qu'il y a des enjeux majeurs derrière, des enjeux majeurs toujours dans le but de vivre dans une société plus égalitaire, voilà, et que ces enjeux-là, j'ai envie de les poser, de faire intervenir des gens qui s'y connaissent là-dessus. Et c'est ma façon de faire avancer le débat. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair parce que c'est assez
technique.
On va
prendre un exemple concret. Ouais. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment nous expliquer ton point de vue sur un exemple concret. Aujourd'hui, on parle de féminicide. Avant, on parlait de crime passionnel. L'histoire, c'est un monsieur, une dame. Ils étaient mariés, ils étaient heureux. Et puis, ils se sont séparés. Et l'homme, fou de désespoir, a tué sa femme. Avant, on écrivait que c'était un crime passionnel, c'était un fait divers, c'était une histoire d'amour qui a mal fini. Aujourd'hui, on dit que c'est un féminicide et on l'inscrit dans un phénomène de société de violence systémique. En quoi l'angle qu'on projette sur la même histoire, c'est du journalisme, c'est objectif, c'est rendre compte de ce qui se passe? En quoi c'est juste du militantisme? C'est au bout d'un moment une lecture de la société qui va servir notre agenda autour de la table qui est on veut vivre dans un monde égalitaire où potentiellement on ne sera pas tué par le mec qu'on vient de plaquer. C'est une question que je pose en toute naïveté et sincérité. Bien évidemment que moi je vois un problème systémique d'hommes qui pensent posséder des femmes, mais je comprends celles et ceux qui me répondent bah, pourquoi tu fais le lien en fait, c'est, pourquoi ça pourrait pas être juste des histoires d'amour qui tournent mal, c'est quand même hyper universel et puis voilà, c'est juste des drames, il y en a beaucoup, bah ouais, il y a beaucoup d'histoires d'amour qui finissent mal, il y en a quelques-unes qui finissent en meurtre, il y a beaucoup plus d'accidents de la route que de féminicides, oh. Pourquoi ce sujet-là serait plus important ou dramatique qu'un autre?
Alors, sur les faits divers, moi je trouve que c'est un peu plus compliqué de choisir un angle spécifique que sur les sujets de société. Donc pour moi, là, ce dont tu parles, c'est moins nécessairement une question d'angle qu'une question de traitement et de rappel qu'on va faire au sein de l'article, et surtout de vocabulaire, évidemment. Mais tu vois, je pense que le vocabulaire qu'on utilise, on peut le mettre quel que soit l'angle qu'on choisit. Et donc, le fait de ne plus parler de crimes passionnels, mais de féminicides, de rappeler éventuellement, à la fin de l'article, le nombre de femmes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint chaque année, conjoint ou ex-conjoint, voilà. Ça, c'est une façon de traiter les choses, qui une façon responsable, que prône Prenons la Une, d'ailleurs, largement. Et mais pour moi, ça se dissocie de l'angle, parce qu'effectivement, un fait divers... Moi, la façon dont je vais le traiter, bah, c'est d'appeler les avocats des deux parties. C'est d'appeler le parquet pour savoir si une enquête est ouverte. C'est de faire une enquête de voisinage. Voilà. Mais donc là, on est vraiment dans un traitement très factuel, éminemment factuel. En revanche, effectivement, les mots qu'on va mettre dans le titre, le fait de remettre en perspective et en contexte les justifications de l'assassin, du violeur, de l'agresseur, si on élargit un petit peu à toutes les violences faites aux femmes, de remettre ces propos-là en contexte, avec des chiffres et des données qui montrent que non, ce n'est pas l'histoire de Madame Michu, mais c'est l'histoire du patriarcat, en fait, globalement, eh bien ça, c'est une démarche qui, effectivement, que je mets aussi en œuvre depuis très longtemps, dans mon travail, au même titre qu'un choix d'angle sur un sujet de société dont on parlait tout à l'heure. Je me souviens que ça devait être en 2016, il me semble, j'avais mis le mot féminicide dans un article. Le truc, il était passé entre les mailles des éditeurs. Là, on parlait de petites victoires et de... C'est typiquement là, voilà, le genre de comportement en sous-marin. Je suis infiltrée, quoi. Et j'avais glissé le mot féminicide comme ça dans le truc. C'était passé, c'était publié, et je me souviens qu'il y avait des féministes à l'époque sur les réseaux sociaux qui avaient dit oh, « Mais regardez, il y a le mot féminicide et tout, incroyable !» Et aujourd'hui, et ça c'est fou, et c'est quand même c'est ça qui me donne de l'espoir, évidemment qu'aujourd'hui, Macron il en parle de féminicide. C'est même plus une question de les mettre dans le titre et tout ça, et ah c'est bon, là on commence à y aller, quoi. On commence
à aller très vite. Oui. Ok, donc pour reprendre mon exemple, la différence entre les deux points de vue que j'exposais, c'est que nous, individuellement, chacun individu, on voit ces histoires par le prisme individuel de « ah bah c'est la voisine, c'est la tante, c'est la dame de la cantine, voilà, et bon bah c'est une histoire qui a mal fini ». Mais toi, en tant que journaliste, tu as un prisme beaucoup plus global où tu vois toutes ces histoires et tu vois la dimension commune qu'elles ont, mais pas parce que tu l'as, pas au prisme de ton militantisme, mais au prisme des données que tu récoltes sur ces sujets et qui te permet donc de poser ce regard-là sur ces histoires.
Tout à fait.
On est d'accord.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'affaire Jacqueline Sauvage a été un tournant aussi pour moi, parce que j'ai eu la chance d'assister au procès en appel.
En deux mots, l'affaire Jacqueline
Sauvage.
Alors,
la Jacqueline Sauvage, c'est une dame qui a été battue et violentée toute sa vie par son époux et qui a fini par le tuer de 3 coups de carabine dans le dos. Et donc, elle a été poursuivie.
Pour meurtre.
Pour meurtre. Et condamnée par 2 fois à 10 ans de prison, puis graciée par le président de la République.
François Hollande à l'époque.
François Hollande, ouais. Et donc ça a été pour le coup un bon exemple de fait divers qui s'est transformé en fait de société.
Parce qu'elle a pas été graciée automatiquement, il y a eu des pétitions, il y a eu
des marches, ouais,
pour demander à François Hollande de gracier Jacqueline Sauvage.
Et ça c'est très intéressant parce que j'étais un peu torturée à l'époque parce que moi qui avais assisté au procès, je voyais bien que Jacqueline Sauvage, c'était pas nécessairement celle sur qui il fallait mettre le symbole de toutes les femmes battues, de toutes les violences conjugales, etc. Ça restait un dossier avec ses particularités, ça restait une dame avec ses particularités, son histoire, des actes inexpliqués, vraiment des complexités, quoi. Et heureusement, parce que chaque affaire criminelle est différente. Et néanmoins, ça permettait quand même de traiter cette affaire-là en faisant un habile équilibre, on en revient toujours, équilibrage en tout cas, entre cette affaire qui se juge, qui est spécifique, qui est aux assises de loi, quelque chose qui est spécifique, c'est leur histoire, l'histoire de cette famille, de ce village, et en même temps, la grande histoire et le fait qu'elle devienne un symbole et... Et ça, ça a été un bon équilibre, un bon exercice, pardon, de nuance, tu vois, à apporter à tout ça et de regard un peu nuancé. Et c'était pas facile. Et en même temps, j'ai compris pourquoi elle est devenue un symbole. Et enfin bref, c'était très 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 intéressant à couvrir quand même. Et ça a marqué quelque chose dans la société et moi aussi dans mon approche du traitement des violences conjugales.
Pour revenir justement à ton approche journalistique, moi j'aimerais bien que tu nous as parlé tout à l'heure de la phrase de ton rédacteur en chef que tu n'avais pas compris sur le moment. Et tu as dit que tu l'avais compris plus tard, quand, comment, et quel sens tu mets dessus à ce moment-là. Parce que du coup, je pense que nous on voit à peu près, mais...
De ce qu'est être une journaliste engagée.
Quand tu dis que le problème c'est un journaliste désengagé,
qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour moi, un journaliste désengagé, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de sa responsabilité. Pour moi, mais c'est mon point de vue à moi, mais je pense qu'on ne peut pas faire ce métier. Enfin, en tout cas, moi, l'idée que j'en ai, c'est de dire j'ai envie de me battre pour une société qui soit plus égalitaire. Et ma responsabilité, elle se situe là. Et donc, mon engagement, il se situe là. Et c'est comme ça que j'ai envie de l'incarner et de faire ce métier. Donc, je ne peux pas me permettre de faire des articles, de faire des comptes rendus, un travail journalistique qui sème la haine, qui sème les divisions, qui sème les discriminations. Ça, c'est, pour moi, c'est pas concevable. Je pense pour beaucoup de mes collègues et tout ça, mais pas pour tous. Il y en a qui s'en foutent et puis il y en a qui sont dans le camp adverse, hein, parce que oui, il y a les gentils et les méchants. Oui. Et donc, moi, ma vision de l'engagement se situe là, quoi. Je n'ai pas envie de... J'ai envie de faire les choses en conscience et en responsabilité pour qu'on fasse avancer tout le monde vers une société où il y ait moins d'inégalités et moins de haine, quoi. Ça peut paraître, j'en ai conscience, tout à fait bisounours, hein, de parler comme ça, mais on est loin, loin, loin du compte, en fait. Donc, il y a énormément de travail et c'est pour ça. Le journalisme engagé, c'est exactement ça que ça veut dire pour moi. C'est œuvrer pour une société plus égalitaire, en faisant un travail qui soit honnête avec les lecteurs et responsable. Donc je ne vais pas vous dire ce que vous devez penser, je ne suis personne pour ça. En revanche, je peux remettre du contexte et je peux choisir des angles qui permettent, d'avoir une réflexion pour le mieux vivre et l'égalité. Quoi.
T'as prononcé un mot très important, t'as parlé de responsabilité. C'est quoi la responsabilité d'un ou une journaliste aujourd'hui ?
Bah, c'est exactement ça. La responsabilité d'un journaliste, pour moi aujourd'hui, c'est de ne pas semer la division. Je pense qu'il faut relativiser aussi notre pouvoir, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont plein de moyens de s'informer, etc. Et que ce n'est pas nous non plus qui faisons pleuvoir ou faire le beau temps, tu vois. Mais je pense que comme on écrit des choses qui potentiellement peuvent être lues et peuvent rester sur les internets et tout ça, bah oui, c'est notre responsabilité de ne pas me donner des armes à ce qui peut ensuite porter préjudice à un certain type de population, de personnes, et qu'il faut faire les choses de manière... c'est ça, responsable en fait. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi là je travaille à Check News, où on fait du fact-checking, et où les faits sont ma première...
Ma priorité.
En plus, on répond aux questions des internautes, donc c'est eux qui nous donnent les angles. Donc c'est vrai que toute cette réflexion-là que je donnais sur les angles, ça valait surtout pour quand je faisais des papiers de société les années précédentes, et ce que je referais peut-être un jour. Aujourd'hui, je suis moins dans cet exercice-là. Mon engagement passe davantage... Je sais pas, en fait, je suis encore en train d'y réfléchir à comment mon engagement va prendre forme maintenant. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de tout casser, quoi. En vrai, là, aujourd'hui...
le fact-checking, c'est quand même une discipline assez récente du journalisme, et je sais pas si c'est une bonne chose ou une réponse à un symptôme extrêmement préoccupant. Alors c'est clairement une bonne chose dans le sens où c'est un besoin aujourd'hui d'avoir des cellules qui se penchent sur les fake news qui circulent et qui apportent une réponse, et en même temps c'est quand même dramatique que on en soit là. C'est-à-dire que moi, ce que j'aurais envie de lire aujourd'hui, c'est effectivement des papiers d'éclairage avec des angles sur des sujets de société, ça m'intéresse. Le château des parents d'Apolline de Malherbe a-t-il reçu une subvention ou un cadeau ? Enfin, j'ai halluciné pour citer que cet exemple-là, parce que je l'ai vu passer dans mon fil et j'étais là. Donc ça veut dire que si vous avez répondu à cette question sur Check News, c'est parce que les internautes ont posé la question. Donc pourquoi les internautes ont posé la question ? Pourquoi ce sujet est devenu un sujet ? Ça me dépasse complètement.
Ouais, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait, celui-là.
Donc tu as dû enquêter sur une subvention ridicule de quelques dizaines de milliers d'euros, même pas.
Oui. Bah, la question plus globale, c'était la collusion supposée entre la journaliste de BFM et le gouvernement. Voilà. Bon, c'est des... En vrai...
Mais qu'est-ce que ça dit sur la confiance que les gens portent dans les médias ? Le fait que on doit passer par du fact-checking aujourd'hui. Et en plus, les papiers fact-checking sont rédigés d'une façon extrêmement robotique, extrêmement distante, extrêmement « voici votre question, voici les faits, on a fait ça, on a trouvé ça ». Il y a vraiment... Enfin, moi, j'ai l'habitude de lire les articles en allant lire la conclusion pour savoir la thèse de l'article. Je ne peux pas faire ça sur les papiers de Check News parce que vous distillez juste les informations, il faut recoller le puzzle soi-même, c'est épuisant. Non, je plaisante, mais c'est... Enfin, voilà,
je comprends tout à fait.
Je trouve ça hallucinant qu'on en soit là.
Ben, on en est là. Après, on reçoit beaucoup de questions tous les jours, donc la preuve qu'il y a un besoin. Mais bon, mais ça, la montée des fausses informations, c'est devenu une arme politique comme une autre entre des camps qui s'affrontent. Et aussi avec, évidemment, le fait que sur les réseaux sociaux, il y a... et ça c'est quand même assez récent, la viralité de certaines infos qui peuvent créer des contre-vérités, mais qui du coup s'inscrivent dans ce qu'on appelle des bulles de filtre, nous. C'est cette idée de dire que c'est des gens qui sont d'accord entre eux, qui se partagent entre eux des informations, qu'elles soient fausses ou vraies. Et puis nous, si derrière il y a des médias qui viennent leur dire « Attention les gars, en fait ça c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé », déjà cette info-là ne va jamais leur parvenir. Et puis quand ils vont la lire, ça va légitimer encore plus leur idée de dire bah vous voyez, si Libé en fait un truc, c'est qu'on a raison, et c'est que c'est encore plus faux en fait, voilà. Et donc on se bat un petit peu contre ça, contre le fait que comment faire entendre les faits à des gens qui de toute façon n'ont plus aucune accroche avec le factuel, avec la vérité. Voilà, c'est très très compliqué, mais ça nous dépasse complètement, mais c'est assez récent. Et je pense que l'intérêt du fact-checking, il est là. Après, pour revenir à ce que tu disais, Clémence, je pense que ça n'empêche pas du tout d'avoir d'excellents angles de société et que les collègues le font extrêmement bien aujourd'hui. Hein.
Ah non, je n'ai pas arrêté de lire la presse. Je suis abonnée à Libération, car c'est un excellent journal, je préfère le dire.
En fait, c'est intéressant parce que ça rejoint l'une des questions que je voulais te poser sur ok, on a abordé le fait d'être journaliste et engagé. Est-ce que c'est possible d'être journaliste neutre, 100% objectif, très distant justement de tout? Et est-ce que, enfin, parce que effectivement, moi aussi, quand je suis devenue journaliste, c'est une question que je me suis posée. Et je sais pas, je pense qu'au départ, je le voyais vraiment comme un devoir, quoi, d'être neutre et objective. Bon, le fait est que j'ai commencé par travailler chez Mademoiselle.
Bye l'objectivité.
Voilà. J'ai évolué évidemment sur ce sujet-là, mais demeure cette question de est-ce que c'est possible en fait ?
Je précise juste parce que j'ai fait une vanne, mais effectivement, Mademoiselle a une ligne éditoriale engagée. C'est-à-dire que le magazine ne s'est jamais caché de défendre des valeurs d'égalité, notamment engagées sur les droits des femmes, mais de lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc à ce compte-là, quand on faisait, et par exemple moi quand je faisais des articles autour de la Manif pour tous, je n'allais jamais tendre le micro à la Manif pour tous, parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas ce qu'ils ont à dire, ils le crient déjà en manif, ils le crient sur les réseaux sociaux, ils sont reçus à l'Assemblée, ils ont des lobbies à l'Assemblée, etc. Moi ce qui m'intéressait c'était plutôt la parole des personnes LGBT et de toute, ou du planning familial pour tout ce qui était accès à la contraception, à l'avortement. Le fait de, par exemple, pour être neutre et objectif sur un sujet, tu vas interroger A et B, et puis tu laisses le lecteur décider, ça, je n'ai jamais fait sur Mademoiselle, par exemple. Je prenais parti de, vu que B, on les entend un peu trop, je rééquilibre en donnant un peu plus la parole à A. Prenez ce que vous voulez là-dedans.
Bien sûr. Bah oui, pour répondre à ta question, Esther, pour moi, c'est un mythe complètement, l'objectivité. Je ne sais même pas si c'est encore ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles de journalisme, d'ailleurs.
Je ne sais pas, car j'en ai pas fait.
Ouais, moi non plus, j'en ai pas fait.
Moi non plus. Ah.
On est vraiment entre impostures, c'est un truc de fou. En tout cas, moi, dans le master de journalisme que j'ai fait, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné. Le respect des faits, évidemment. La parole donnée à chacun, évidemment. L'objectivité, c'est un mythe complet. Et d'ailleurs, c'est une excuse pour ne pas prendre ses responsabilités. Voilà, vraiment. Et d'ailleurs, on voit bien que les gens aujourd'hui, sous chaque article de fact-checking qu'on publie, c'est bah bravo, et ça se dit journaliste. Voilà, sous-entendu, on a donné une orientation, on a été biaisé dans notre traitement, etc. Ce qui est difficile à faire quand on fait du fact-checking quand même.
Oui, c'est ce que j'allais dire. D'autant plus que c'est, voilà. c'est une, comme on le disait, une forme de journalisme particulière. Quoi.
Exactement. Très, pour le coup, éminemment factuel, qui recueille la parole de chaque personne mise en cause, etc. Donc, c'est compliqué de nous attraper sur un engagement qu'on laisserait percevoir, je pense, dans l'article. Et donc, ce qu'on nous reproche, on nous dit, et ça se dit journaliste, donc en fait, ils veulent qu'on aille, qu'on tende vers une objectivité qui serait le Graal, qui serait le modèle, alors que même eux-mêmes nous disent ça pour qu'on leur donne raison à eux, c'est-à-dire à leurs idées extrêmes, souvent, qui ne sont pas du tout objectives, pour le coup.
Oui, c'est ça, les bons journalistes, ce sont ceux qui sont d'accord avec moi.
Oui, exactement. Exactement. Et ça, bah non, on n'est pas là pour ça, voilà. C'est pas notre but premier, en tout cas, de satisfaire tout le monde.
Effectivement. Moi, ce que je réponds souvent à ces gens-là, après j'aimerais bien que tu me dises ce que tu réponds aussi, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'à partir du moment où je suis transparente et où en fait vous savez d'où je parle, ne serait-ce qu'à travers les sujets que je choisis de traiter, vous savez comment je me positionne dans la société. Je suis pas une entité, une enveloppe vide qui est arrivée là par hasard. J'ai un parcours, j'ai une histoire, ça a façonné la manière dont je vois le monde, ça influe forcément sur mon choix de sujet, c'est transparent, donc vous ne pouvez pas, à partir de là, me reprocher de ne pas être neutre et objectif, parce que, en fait, surprise, je n'en ai pas la prétention. Je serai factuelle et j'avancerai les faits, mais effectivement, dans mon angle, je n'ai pas la prétention d'être neutre ou objective.
Voilà, et la meilleure réponse à ça, c'est de dire, bah oui, regardez, en fait, les journaux même se divisent entre grandes catégories. On oppose Libé au Figaro. Les journaux vraiment neutres, alors on peut penser au Monde qui est au milieu, mais qui du coup est au centre, en fait. C'est aussi une prise de position d'être au centre. Le fait est qu'il ne peut pas y avoir tromperie sur la marchandise. Voilà, tu lis le Figaro, tu sais ce que tu vas lire. Si c'est, et tu peux très bien ne pas être d'accord, ou tu peux être d'accord, mais au moins tu sais que tu vas lire un journal de droite. Voilà, Libé, c'est l'inverse.
D'où l'importance de contextualiser et de savoir ce qu'on lit. Il y a un petit journal qui fait des trucs que j'aime bien pour illustrer ce sujet-là, justement. Ça s'appelle Le Dranche. Et en fait, ils font souvent des petites infographies où ils prennent un sujet, un fait d'actualité, et ils font une liste des différents traitements par différents organes de presse. Et c'est assez fascinant de voir, effectivement, bah, très bon exemple pour illustrer ce qu'est un angle. Faut aller voir sur leur, je sais pas, leur compte Instagram ou leur page Facebook ou ce genre de choses. Parce que vraiment, du coup, ça permet de se dire, ah ouais, il y avait un sujet et en fait, t'as 10 titres de presse qui l'ont traité, mais vraiment pas de la même manière, quoi.
Ouais, et typiquement, je repense à l'affaire Polanski encore, désolée, je suis en boucle sur ce truc, mais en vrai, là aussi, ça illustre très bien ce qu'est un angle. Parce que y a des articles qui l'ont traité par le fait que Adèle Haenel et Céline Sciamma se lèvent et quittent la salle, que c'était voilà, une forme de révolution féministe, de révélation de quelque chose qui se passe et tout ça, de quelque chose qui marque l'air du temps et tout, et t'as d'autres... journaux qui étaient en mode c'est la victoire de la bien-pensance et du on ne peut plus rien dire et donc voilà, là tu vois les deux interprétations. Bon, pour moi il y en a une qui est dans le vert et l'autre qui est dans le rouge, mais au moins les deux existent et après les gens se font leur avis quoi, mais il n'y a pas de tromperie sur la marchandise du coup.
Moi je veux bien être une journaliste neutre et objective et rendre compte de l'état du monde tel qu'il est et sans, en laissant mon féminisme au vestiaire, mais du coup je suis désolée, je peux pas écrire ce que ces gens-là voudraient que j'écrive, c'est-à-dire je peux pas dire que quand même on exagère avec les violences sexistes et sexuelles et quand même le nom qu'a porté plainte et puis quand même peut-être qu'on en fait un peu trop autour de ces sujets. Enfin, je veux bien moi être dans cette neutralité qu'ils attendent. C'est juste que je pense que c'est eux qui n'ont pas la bonne vision de la réalité. En fait, au bout d'un moment, je suis avant d'être une journaliste, je suis une femme, j'ai un vécu de femme dans la société et ce vécu-là. Ben, c'est comme on parle beaucoup de séparer l'homme de l'artiste, moi je sais pas séparer la femme de la journaliste, hein. C'est quand même vraiment difficile de mettre tout ton vécu au placard pour écrire ensuite, pour rendre compte de faits de société à travers un angle qui nie complètement ton expérience. On parlait de faits, quand on a commencé à parler de harcèlement de rue, pour moi c'était le meilleur révélateur parce qu'on était là toutes au même moment à dire ah ouais, c'est vrai vu qu'on n'est pas la seule à subir ça, on peut arrêter de faire comme si c'était normal et commencer à le dénoncer. Et alors là, on a choqué l'intégralité de la gente masculine qui, jusqu'à présent, ignorait complètement le phénomène juste parce qu'on n'en avait jamais parlé.
Bah ouais, tout à fait. C'est très bien ce que tu dis.
Écoutez, je n'ai pas de rebond.
si, moi, j'ai juste une toute petite question pour finir sur ce sujet. Est-ce que ces reproches de neutralité, ils sont plutôt faits par le lectorat ou par des gens du métier eux-mêmes ?
Les deux. Le lectorat beaucoup. De toute façon, quoi qu'on écrive, qui que ce soit l'organe pour lequel on travaille, c'est toujours. Les journalistes, c'est quand même une cible très facile d'attaque pour des internautes de tous bords. Et vraiment, je pense que taper sur les journalistes, ça fait un peu l'unanimité quand même. Donc, le lectorat, oui, il va de ses critiques. Et dans le métier. Évidemment, puisque là, spontanément, je pense à la une de Valeurs Actuelles, qui est d'ailleurs encadrée chez moi aussi.
La terreur féministe.
Là-bas au bout, sur la terreur féministe. Je l'ai encadrée parce que finalement...
Tu en fais partie.
Je l'ai cachée un peu, c'est-à-dire que je ne l'ai pas non plus accrochée au mur en mode fierté. Oui, mais typiquement, là, c'est une partie du métier.
Elle a roulé des yeux, je dénonce.
qui nous dit qu'on fait pas bien notre métier. Voilà, donc pour répondre à ta question, oui, ça vient aussi de l'intérieur. Après, c'est pas pour ça que c'est des critiques plus importantes que les autres, hein, en vrai. Vraiment, j'y accorde très très peu d'importance.
Surtout que pour le coup, venant de Valeurs Actuelles, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, non ?
En termes d'objectivité, oui.
Oui, ouais, et d'ailleurs,
sur ce sujet-là, oui, parce que...
Il ne se targue pas d'être objectif, d'ailleurs. Tu vois. Mais voilà. Pour le coup, je pense qu'il serait d'accord avec nous ici sur la définition de... Enfin, sur le fait que l'objectivité est un mythe, hein, du journaliste.
Je veux revenir à ce que tu viens de dire sur le fait que du lectorat, les critiques sont fréquentes et nombreuses. C'est assez récent, non ? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le journalisme, c'était une profession qui était considérée. Et je crois que c'est Titu Lecoq en 2017, au moment de l'élection présidentielle, qui avait écrit dans sa newsletter que les journalistes étaient les nouveaux contrôleurs fiscaux, c'est-à-dire que dans les repas de famille, il valait mieux être contrôleur fiscal que journaliste. On était devenu la profession la plus haïe des Français. Moi, j'en ai fait l'expérience sur le terrain en décembre 2018. J'ai voulu faire un reportage sur les gilets jaunes parce que je viens de la région de Saint-Avold, qui était un bastion gilet jaune, et que je m'étais un peu désintéressée de la question vivant dans Paris. Grave erreur. Et quand je suis rentrée en famille, j'ai bien vu que le sujet m'avait complètement échappé, donc j'ai voulu m'y intéresser, donner la parole aux gens. personne parmi les commerçants de la ville n'a voulu me répondre parce que les journalistes, c'est fini, on vous parle plus. Évidemment, une vitrine avait été vandalisée d'un commerçant après qu'il soit passé sur une chaîne de télé pour un débat à la télé, quoi. Et donc, il s'était fait derrière saccager sa vitrine. Voilà. Et enfin, cette haine, parce qu'on est au-delà du... On a un problème de confiance envers les journalistes, mais on est même entré dans un rapport de détestation. Est-ce que c'est quelque chose que toi-même, tu as ressenti, parce que tu es dans le milieu, du coup, depuis un moment? Comment tu l'appréhendes? Comment on en sort?
Ouais, je la ressens très fort. Hein, et moi, elle se matérialise par les réseaux sociaux, notamment. Je pense qu'on a une énorme part de responsabilité dans cette détestation. Et quelque part, je la comprends. Vraiment, parce que on est un métier qui ne va pas bien. Peut-être que, je sais pas, je pense que peut-être on a une porte de sortie là qui va commencer à se dessiner, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a plein de médias qui commencent à réfléchir à leur modèle économique, à leur façon de changer les choses et tout ça. D'ailleurs, en fait, on est un peu tout le temps... j'ai l'impression, moi, que les directions changent de cap tous les ans, et donc on est vraiment en train de se tâter pour voir comment on fait vivre nos médias collectivement. Mais pendant longtemps, et ça coïncide vraiment moi avec mon arrivée sur le marché du travail, il y a un moment où je pense qu'on a arrêté de réfléchir, quoi. Et où il y a eu un suivisme incroyable. Et je trouve que, effectivement, avec des rédactions qui sont moins bien dotées, qui recrutent moins, qui mettent moins les moyens, et qui demandent une cadence toujours plus élevée pour faire des clics ou des vidéos vues, ça dépend de la lubie du moment. Comme on ne donne pas le temps aux journalistes de faire un bon travail, bah celui-ci va copier plus ou moins ce qu'a fait le précédent, les erreurs comprises, et on est dans un modèle de panurgisme le plus total, avec des exceptions, et voilà, et encore, je pense que les choses sont en train d'évoluer, et en tout cas, moi, là, dans le service dans lequel je suis, je m'estime extrêmement chanceuse, parce que j'ai l'impression qu'on fait des choses... en réfléchissant, voilà. Et mais il y a quelques années, moi, là où j'ai, dans les endroits dans lesquels j'ai commencé et tout ça, c'était ça, quoi. On notait la toute responsabilité et toute possibilité aux journalistes de réfléchir. Et on était sur, alors avec une comparaison qui tient pas la route, mais c'est quasiment un travail à la chaîne, hein. Les dépêches et le travail de desk, donc c'est-à-dire des journalistes. On dit desk parce qu'ils sont assis à une table toute la journée et qui bâtonnent des dépêches AFP pour faire du nombre, pour faire du clic, etc. Mais c'est la mort du métier.
Bâtonner des dépêches AFP.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, donc, il y a l'agence France Presse qui fait des articles très fouillés. La plupart des rédactions françaises sont abonnées, donc payent l'AFP pour pouvoir reprendre ces informations-là. Et donc, c'est souvent la tâche des jeunes journalistes qui sont confrontés à la perte violente de leurs illusions, qui arrivent dans les rédactions et qui donc doivent reprendre ces dépêches globalement, copier-coller, éditer le titre, trouver une image et la mettre en ligne, quoi. Voilà, ça c'est une réalité dans énormément de rédactions de France aujourd'hui.
En combien de temps par article?
Une dépêche à bâtonner, franchement, c'est un quart d'heure, hein, même pas plus. Hein.
Sur ce sujet-là, j'ai même avant d'arriver dans les rédactions, en fait. Enfin, moi, j'ai donc comme je disais tout à l'heure, j'ai pas fait d'études de journalisme du tout. Mais en revanche, j'ai des gens dans mon entourage qui, s'ils ne l'ont pas fait, ont au moins essayé de le faire. Et j'ai une personne dans mon entourage qui m'a raconté ce qu'on lui avait répondu quand elle avait demandé les motifs de son refus à l'admission d'une école. Et qu'on lui avait dit globalement qu'elle était justement, on en revient à ce sujet-là, trop engagée. Et qu'en fait, elle se ferait chier à faire la météo et du bâtonnage et du desk, et que donc, elle n'avait pas le profil pour cette école.
C'est dramatique. Waouh. Donc maintenant, on ferme les journalistes à faire ça. C'est dramatique.
Non, mais moi aussi, j'ai essayé de candidater dans une école. Et après, je pense que parfois, les raisons qu'on donne sont juste, il faut trouver un truc à lui dire, tu vois, et voilà. Donc je suis pas sûre que ce soit emblématique, et je veux pas en faire un truc emblématique, parce que moi, on m'a dit que j'avais des étoiles dans les yeux quand je parlais de relations internationales, plus que quand je parlais de journalisme. Donc...
Mais on ira voir, on ira voir des écoles de journalisme, et on leur posera la question de comment ça se passe. Vas-y, viens, on fait ça.
Ça serait vraiment très intéressant à faire, oui, d'ailleurs. Mais il y a déjà des travaux qui sont faits là-dessus, d'ailleurs. Hein,
mais là, tu pointes le doigt sur quelque chose qui est hyper grave en ce moment, c'est... la contradiction entre justement tous ces nouveaux journalistes et nouvelles journalistes qui arrivent dans le métier avec plein d'idéaux et plein de valeurs et pour le coup qui sont engagés et ce qu'on leur demande de faire dans les rédactions. Et c'est dramatique, je pense le fossé entre les deux est dramatique et ça va pas du tout nous aider à remonter la pente au niveau confiance avec les lecteurs hein, parce que ça peut pas produire du bon travail, ça peut pas produire une réflexion.
Alors, est-ce que vous avez lu autour de la table là, l'article de Vice?
Je l'ai dans un onglet, il est ouvert, okay. Mais il n'est pas encore...
C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que Vice a fait une enquête sur les conditions de travail dans les rédactions et parle exactement de ça, c'est-à-dire le desk, le bâtonnage. En fait, il raconte, l'article met en lumière, comment les algorithmes et Google, les réseaux sociaux, sont devenus les nouveaux rédacteurs en chef, puisque les choix sont dictés par la recherche de l'audience et du clic. Moi, je trouve qu'il y a un angle mort dans l'article, et j'en ai fait trois tweets, c'est que l'audience, c'est pas quelque chose d'immatériel. C'est des gens qui, derrière, cliquent. On est quand même d'accord autour de cette table que les gens cliquent beaucoup plus sur un petit article bien titré « Insolite, un blaireau s'infiltre dans sa cuisine ». Je clique.
Moi, je clique.
Voilà. Que un long papier sur la misogynie sur Internet... pourquoi les féminicides sont un problème de société majeur. Alors maintenant, ça clique le féminisme. Ok, d'accord. Il n'y a pas si longtemps que ça cliquait pas.
Non. Et même là-dessus, hein, je suis désolée, mais quand j'étais chez Mademoiselle et que j'ai fait quand même 6 mois de reportage à travers le monde sur les droits des femmes et que je voyais le taux de clics sur mes articles qui étaient vraiment des reportages fouillés avec du terrain, des interviews, des témoignages, etc.
En 2018, donc de mars à septembre 2018.
Ouais, à peu près. Donc quand je faisais ça, mes articles, honnêtement, ils ont jamais
rapport de 1 à 10
décollé par rapport à des trucs genre « Ah, la nouvelle veilleuse, je prends toujours cet exemple parce que ça me rend ouf, mais la petite veilleuse licorne, etc. »
C'est un des cartons de mademoiselle.com, c'est un article sur une veilleuse licorne, je sais plus quel âge il a. Mais voilà, un truc comme ça, effectivement, on est en dessous...
Les rédactions ont ce petit truc honteux.
Voilà, on est en dessous du 15 minutes et pour faire un article comme ça. Et effectivement, ça fait un carton monumental versus des articles... qui sont demandés d'ailleurs, hein, parce que les lectrices, elles demandent des articles sur les droits des femmes, sur « mais arrêtons d'être franco-centrés, faisons un peu des reportages autour du monde ». Voilà, on a fait, ça n'intéresse personne. Enfin pardon, ça n'intéresse personne.
Mais après, je pense qu'il faut continuer, parce qu'on a le lectorat qu'on mérite, et donc c'est aussi à nous d'éduquer à la lecture de travaux riches et travaillés. Et moi, j'ai confiance, hein, je pense que... D'ailleurs, maintenant, quand on me dit... l'argument de dire c'est trop long, c'est pas lu, alors là, moi, j'y crois plus du tout. Franchement, non, si c'est intéressant, si c'est bien, les gens lisent. Évidemment, c'est bon quand même. On est en 2020 et on est sur une culture web. Les gens lisent sur leur smartphone et tout ça. Donc, voilà. Mais après, je pense que les petits articles comme ça qui rapportent des sous, faut pas s'en couper non plus. Et c'est pas forcément honteux non plus, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais non, en fait, c'est juste, au bout d'un moment, si ça rapporte des sous pour avoir un matelas, pour faire d'autres trucs hyper intéressants et gagner d'autres personnes qui ont envie de lire ça et se cultiver par ça, c'est tout bénef. Hein.
Ouais, c'est des portes d'entrée aussi. Hein.
Bah oui, on va pas se mentir, hein, c'est grâce aux veilleuses licornes et aux trouvailles de l'internet que Esther et moi, on avait du travail chez Mademoiselle. Hein, voilà. Sinon, clairement, on n'était pas rentable.
Mais c'est un équilibrage. Hein. Et ce serait trop bien qu'il y ait que des chefs de médias qui aient ça en tête, mais c'est pas encore le cas, hein, franchement.
C'est aussi, tu l'as un peu effleuré, mais le modèle économique de la presse qui est en crise, grave, et que ça s'arrange pas, à part le système d'abonnement qui fonctionne pour Mediapart, en ayant quand même grugé la TVA la première année, si j'ai bien suivi, et le Canard enchaîné titre historique, je connais pas beaucoup de médias qui arrivent à vivre uniquement sur ce modèle économique. Voilà.
Et là, pour le coup, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire.
Problème insoluble.
Ouais. Enfin, c'est sûrement pas insoluble. Et d'ailleurs, les médias existent encore, donc on n'est pas encore tous à la porte. Mais disons que du point de vue de la journaliste que je suis, on a toujours conscience qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de dire s'il y a des chefs qui trouvent qu'on l'ouvre trop ou qu'on n'est pas assez dans les valeurs de l'entreprise et tout, c'est genre, prends la porte, va voir ailleurs, il y en a 18 000 pour te remplacer, meuf. Et ça, oui, ça, moi, je l'ai vécu très, très fort dans l'ancienne rédaction où j'étais, quoi. Donc, et on l'a très fort en tête, cette précarité. Il fait froid dehors, quoi, en vrai. Quand on... Non, mais voilà, on vit à Paris, là, on a des... ou autour, les loyers sont chers, il faut qu'on mange, il faut qu'on vive. Et quel arbitrage on ferait entre ça, entre cette précarité qui est omniprésente depuis des années, nous, on n'a connu rien d'autre, en fait, depuis qu'on est sur le marché du travail, et nos valeurs qui des fois font un peu chier les chefs. Voilà.
Et je profite qu'on ait le micro pour dire que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que journalistes on roule sur l'or parce qu'ils ont l'image du journaliste, c'est David Pujadas.
C'est vrai.
Et non, on n'a pas le salaire de Pujadas quand on est journaliste.
Ah bah non, non. Clairement là, on est dans mon studio de 23 mètres carrés, donc si j'avais les moyens, je vivrais dans un truc un peu plus grand.
Le salaire médian en France aujourd'hui, c'est 1800 euros net par mois, c'est le salaire médian. On est d'accord que le journaliste de base, la moyenne, elle est en dessous.
Moi, j'ai commencé à 1900 net.
Après, je pense qu'il faut aussi...
Dans une grande rédaction.
Dans une rédaction. C'était à Metro News, c'était un journal gratuit. Bon, et j'avais conscience que c'était pas si mal.
Je pense qu'il faut faire aussi une grosse distinction entre les journalistes qui ont un contrat.
Exactement.
Et les journalistes pigistes.
Et les pigistes, bien sûr.
Qui se galèrent énormément à vendre leurs piges, qui, quand ils réussissent à les vendre, sont payés souvent au lance-pierre. La quantité de travail qu'il faut parfois fournir pour une enquête qui finit par être payée au signe ou au feuillet, alors que peut-être qu'une interview qui t'aura pris que 2 heures à faire et qui sera plus longue, je pense qu'il y a des choses à repenser aussi dans la manière dont on rémunère, y compris les journalistes qui ne sont pas dans des rédactions. C'est mon cas depuis un petit moment. En réalité, pour être honnête, en fait, je ne pige pas parce que je fais d'autres trucs à côté pour YouTube notamment, etc. Et pour le moment, je le fais parce que j'ai le chômage, mais ça ne va pas être éternel. Et il faut... Là, je suis à cette charnière où je me pose la question de « Ok, comment je finance mes prochains projets ?» Avec quel argent ? Eh bien, ce ne sera peut-être pas avec l'argent d'organes de presse, en fait. Ce sera peut-être avec l'argent d'autres choses. Je ne sais pas, j'ai plusieurs pistes que je ne vais pas détailler ici, mais c'est aussi une réalité dont il faut se rendre compte, je pense.
Et la façon dont on traite les pigistes, en fait, moi, je trouve que c'est complètement symptomatique de la façon dont on traite les médias existent actuellement et comment on traite les journalistes. Alors, effectivement, on est mieux lotis quand on a un salaire et qu'on n'est plus dans la précarité. Mais la façon dont on traite les pigistes, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. On est quantité négligeable et un peu interchangeable aussi, quoi. On est un peu interchangeable. Je dis un « on » générique parce qu'encore une fois, je précise que j'ai de la chance aujourd'hui, moi.
Alors, on va quand même pas finir sur une note aussi négative. Alors, déjà, est-ce que toi, tu as d'autres questions sur la discussion ? Sinon, je...
Alors, pas sur le sujet précis du journalisme, mais j'avais envie de revenir un tout petit peu sur « Prenons la une », parce que c'est une autre forme d'engagement que tu as eue, c'est une autre méthode. Et pourquoi est-ce que tu en as ressenti le besoin à un moment ?
Oui, mon engagement à « Prenons la une », il a complètement coïncidé avec le moment où je me sentais très, très seule dans ma rédaction... à être, comme je le disais tout à l'heure, la seule féministe de service et que c'était un peu lourd à porter au quotidien. Et donc, pour moi, m'engager là, c'était trouver des sœurs, quoi. Vraiment, trouver des...
Les autres féministes de service.
toutes esselées et épuisées, mais tellement heureuses de nous retrouver, quoi. Et ça m'a donné une force assez incroyable, hein. Même si, voilà, même après, à l'intérieur de Prenons la Une, voilà, il y a des désaccords, il y a des... Évidemment, c'est une association comme toutes les autres, mais il y a quand même le fait de se retrouver ensemble et tout ça. Et c'est ça aussi l'engagement, ou le militantisme. C'est aussi de retrouver des gens avec qui se serrer les coudes et gueuler ensemble, en fait. Ça, c'est génial.
Je voudrais revenir juste sur un détail, mais plusieurs fois dans cet entretien... T'as souligné le fait que on a des désaccords, que voilà, t'as commencé avec les féminines, mais t'as des désaccords. Je sais plus quel autre sujet, là encore, des désaccords. Ok, on enregistre effectivement le 6 mars et sur France Inter aujourd'hui, il y a une journée toute féministe. Et justement, en venant ici, j'écoutais une émission dans laquelle une intervenante a dit « Les hommes ont depuis toujours ce privilège, ne pas être d'accord entre eux et être respectés pour ça ». Et en fait, je pense qu'il est vraiment temps que nous aussi, on fasse cette démarche-là, d'assumer que, évidemment, qu'on n'est pas toutes d'accord entre nous sur tout, parce que justement, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est obligatoirement alignées 100% du temps sur tout. Et que c'est pas quelque chose dont on doit s'excuser, s'expliquer ou se justifier, bah, c'est juste un fait. on a plein de points d'accord et c'est ce qu'on souligne en ce moment parce qu'on est en train d'essayer de faire bouger la société dans un certain sens. Le bon sens, excusez ma subjectivité,
complètement.
Mais qu'on va pas s'excuser ou s'expliquer ou se justifier en permanence de désaccords qu'on a par ailleurs et qui sont secondaires par rapport à notre objectif principal. Est-ce qu'on est d'accord ?
Alors, oui et non. Il y a quand même, j'ai quand même un petit bémol. Parce que là, tu vois, on parle, si on parle de désaccord, je trouve que ça s'est illustré à travers les semaines précédentes sur la question des femmes trans, par exemple. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant de voir à quel point tout de suite, ces désaccords-là, ils ont été mis en lumière. Et là, c'est là où je te rejoins, c'est que ça devient une arme pour montrer qu'en fait, on est complètement divisé, qu'on ne sait pas où on va, qu'on est un poulet sans tête, etc. tu vois, l'image, quoi. Après, pour moi... Pour moi, ce n'est pas des questions secondaires parce que quand même, dans ces divisions, moi, j'ai l'impression qu'il y a toute une partie de personnes qui se disent féministes et qui en profitent pour en exclure d'autres. Et ça, pour moi, ce n'est pas du féminisme. Voilà. Donc, quand on exclut des femmes parce qu'elles portent un voile, quand on exclut des femmes parce que ce sont des femmes trans, voilà. Pour moi, ça, c'est pas... Ou des lesbiennes. Ce n'est pas du féminisme. C'est ma position, et puis j'essaie de beaucoup lire aussi et de beaucoup me documenter, peut-être même auprès de personnes qui n'ont pas ces avis-là, pour savoir que ça existe, pour m'enrichir aussi de réflexions qui sont diverses. Mais quand même, non, en fait, quand on se bat pour l'égalité, c'est l'égalité de toutes, quoi, vraiment. Sans en laisser une seule sur le bas-côté, c'est hors de question. Et sans en parler à la place des autres non plus, Et ça aussi, c'est quelque chose... Tu vois, quand on est journaliste, on donne le micro. On tend le micro aux autres. Et c'est ça aussi, pour moi, d'être journaliste engagé, c'est de reconnaître que moi-même, j'ai la chance d'être dans une rédaction, d'être embauchée, d'être une meuf qui vient d'un milieu pas défavorisé, d'être blanche, d'être hétéro, et de me dire, OK, je reconnais les privilèges que j'ai et je vais les mettre au service de celles qui n'ont pas la parole et leur tendre le micro. Voilà. Et pour moi, c'est ça aussi une des formes très concrètes de l'engagement féministe et de mon engagement en tant que journaliste qui me permet de tendre le micro ou une tribune, de faire entendre des voix qui ne sont pas entendues, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Anaïs. On est vraiment ravis d'avoir pu te tendre le micro aujourd'hui.
Merci.
Donc merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je le disais, je voulais qu'on termine sur une note positive. Donc vu qu'on est toutes les trois des journalistes autour de la table, pour toutes celles et ceux qui auraient été touchés par le constat peut-être un peu... critique qu'on a fait de la profession aujourd'hui, comment est-ce que ceux qui nous écoutent peuvent soutenir les journalistes ou les médias qu'ils auraient envie de soutenir? Alors je précise effectivement que s'abonner, bien sûr, donner de l'argent quand on peut, bien sûr, on est dans une société où beaucoup de gens sont précaires. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui aider à changer un peu cette image du journalisme? Comment est-ce qu'on peut soutenir des médias qu'on aurait envie de soutenir autrement qu'en leur donnant de l'argent quand on n'en a pas?
Voilà, donc bien sûr, donc l'argent c'est le nerf de la guerre, donc évidemment si on peut s'abonner c'est très très bien, mais aussi on peut soutenir des initiatives émergentes, et là je pense par exemple au magazine Gaze qui est en train de se lancer, qui est un magazine qui va promouvoir le regard féminin sur l'actu et sur plein de choses, et qui est complètement, qui est une très belle initiative... et qu'il faut soutenir. Et je pense qu'au-delà de... Donc, si on peut donner des sous, c'est très bien. Si on ne peut pas, eh ben, au moins relayer sur les réseaux ces initiatives-là et donner de la bienveillance et donner du partage et de la force aux meufs qui sont derrière ça, je pense que c'est chaque petit commentaire positif et bienveillant compte. Soyons gentils les uns envers les autres, les unes envers les autres.
Toi, Esther, qu'est-ce qui t'aide dans tes projets?
C'est une question difficile. C'est vraiment une question difficile. Et bah oui, évidemment, le fait de regarder, de partager ce que je fais, de faire connaître mon travail, ma chaîne YouTube Esther Reporter.
Mettre des pouces, mettre la cloche, s'abonner, ouais, ce genre de choses.
Voilà, ce genre de choses. Enfin, j'ai l'impression de le... C'est même plus un réflexe, enfin, de le dire, parce que c'en est tellement un que voilà, quand on me pose la question, je pense même pas à ces trucs hyper classiques, quoi. Mais oui, effectivement, enfin, ça c'est la base, évidemment. Et enfin oui, je pense que vraiment soutenir les gens qui font du travail de qualité, et je parle pas forcément de moi là-dedans, mais je vois vraiment beaucoup de gens qui se tuent à la tâche, qui font un travail énorme et qui récoltent pas forcément le crédit et l'argent pour en vivre. Donc je sais pas, je pense qu'en mettant en valeur ces travaux-là, on va peut-être aussi mettre en perspective la nécessité pour les organes de presse de les rémunérer à leur juste valeur, parce que c'est bien joli de vivre, comme je disais tout à l'heure, sur des pigistes qui font des enquêtes à rallonge et qui sont payés une misère pour ça, mais en fait Enfin, justement, quoi. Si on veut qu'ils soient capables de continuer à faire des enquêtes et du travail de fond, etc., bah, il faut aussi leur donner de quoi manger. Et je pense qu'effectivement, peut-être en diffusant...
Moi, j'ajouterais que si on veut pas que les algorithmes deviennent nos rédacteurs en chef, peut-être c'est à chacun, chacune d'entre nous, toutes celles et ceux qui écoutent, de faire leur propre curation sur Internet, c'est de faire leur propre page d'accueil avec... au lieu d'avoir le réflexe d'ouvrir Twitter et de laisser Twitter te dicter l'actu, ben, et le réflexe d'ouvrir Libération, d'ouvrir Slate, oui, je place mes chouchous, ok, et d'aller chercher l'information là où on a envie de la lire et de ne pas laisser Facebook, Google, Twitter nous distiller cette information. Suivre les gens qu'on a envie de suivre, hein. Moi, il y a certaines journalistes que je suis parce qu'en fait, elles vont me faire ma revue de presse. C'est ça qui m'intéresse et c'est une façon pour moi aussi de les soutenir. On a commencé cet entretien en parlant de cyberharcèlement. On dit souvent shitstorm sur Twitter pour désigner le déferlement de merde, assez littéralement. Moi, depuis longtemps, j'ai l'idée de la love storm pour contrer ça. Et ben voilà, je sais que j'y contribue comme je peux à mon échelle, avec un petit cœur sur le tweet pour dire à la personne « Yes, je suis avec toi !»
Bien sûr, c'est déjà un geste politique, hein, de donner de la force à celles qui font des choses qui méritent d'être mises en valeur et de donner de la force bienveillante et par l'amour, en fait, par le partage et la bienveillance et l'empathie.
Merci beaucoup, Anaïs.
Merci.
Excellente conclusion, c'était génial.
Merci, Esther. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme ? Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram. Et moi-même, je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes sur Instagram @conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.